Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous reçoit ce matin et il nous accueille. Grâce, paix et amour nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Par toi, Seigneur, vivant, notre histoire est habitée, soulevée, fécondée, dans ta parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté. Seigneur, tu m'attends, tu me parles, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et sœurs, je sais que tu habites notre aujourd'hui. Tu m'appelles avec toutes les femmes et tous les hommes d'hier qui déchiffrèrent ta trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude, tensé par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. Avec les foules palestiniennes et les apôtres témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. L'autre soir, lorsque notre conseil se réunissait, nous avons parlé des différents projets qui auront lieu dans cette église. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des saints protestants ? Seigneur, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen, Marie de Magdala, Pierre de Galilée, Paul de Tarse, François d'Assise, Pierre Valdo, Jean Hus, Martin Luther, Jean Zwingli, Martin Bucer, Jean Calvin, Pierre Viré, Martin Luther King, Desmond Tutu, Samuel, Bernard, Marianne, Maurice, Josette, Anne-Marie, Alain, nous tous, nous sommes les anges de Dieu. C'est tel message que les réformateurs ont essayé de dire. Ces messagers anciens n'ont pas cru en vain, car nous sommes encore aujourd'hui les témoins du bruissement du monde. Nous entendons les coups de celui qui frappe à la porte de ce monde, et nous discernons les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades, des agonisants, nous prions. Avec les opprimés, les torturés, nous crions. Avec les passionnés, nous cherchons. Avec les lutteurs, nous nous engageons, car tu viens, Seigneur vivant, qui rompt tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations. Je t'attends, toi, le vivant, dont la résurrection ouvre à l'espérance pour nous et pour le monde à venir. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique numéro 7, les strophes 1, 2 et 3. Numéro 7. Mon Dieu, que j'aime les moments où tu me donnes d'être éveillé à ta présence. J'aspire à ces moments car c'est toi qui les donnes et moi qui veille à les cueillir. Mon corps, mon cœur, ma tête, ma vie et tout mon être les attendent, les cherchent. Près de toi, c'est la vie à foison. Et quelle joie pour ceux qui vivent avec toi et te parlent sans cesse. Quelle joie pour ceux dont la force est en toi. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur pour monter vers toi. Quand ils traversent les aridités de la vie, ils en font des retours aux sources et ta grâce comme une pluie féconde. Ils gagnent des forces en avançant à la rencontre de leur Dieu, là où il les attend. Seigneur, tu regardes et tu vois. Tu écoutes et tu entends. Ensemble, l'homme pécheur et ton fils bien-aimé. Oui, un moment de présence totale à ta présence en vaut mille autres. Et j'ai choisi de me tenir proche, me serrer contre mon Dieu, revenir sans cesse à lui. Notre Dieu, tu nous donnes à chacun, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création. Tu nous donnes notre corps pour y habiter avec force et avec grâce. Tu nous donnes notre vie pour user des occasions de donner et de demander. Tu nous donnes notre mort pour ne point rêver d'une immortalité mensongère. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons sec, souvent, et craintif. Cette vie, nous la convoitons et nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons ou nous y sombrons. Pour le gâchis de ta création, Dieu, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-nous dans le nous, afin que nous trouvions la joie et la paix, fût-ce dans la lutte ou la détresse. Seigneur, viens, toi qui renouvelles sans cesse les hommes et les femmes, la terre et les cieux, viens et tu nous ouvriras la porte. Tu balayeras la maison et tu mettras la lumière. Amen. Toujours pécheur, disait le réformateur Martin Luther. Les réformateurs ont essayé de nous rendre attentifs que le salut ne vient pas de notre propre mérite. C'est aujourd'hui le dimanche de la Réformation. Et le dimanche de la Réformation, c'est une manière de redire que le salut est un don de Dieu. Il ne vient pas de nos œuvres humaines, car personne ne saurait se glorifier de ses actes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, souvent l'être humain s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement. En ce dimanche de la Réformation, nous annonçons de nouveau l'Évangile de Jésus-Christ qui est donné gratuitement, qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne à chacun et à chacune de marcher allègrement vers son royaume. Alléluia. Et nous chantons le numéro 160, on le chantera trois fois, s'il vous plaît. Le 160. Je vous invite à la prière d'intercession, d'illumination, avant de partager la lecture et la méditation. Autant que je l'ai pu, autant que tu m'as donné de le pouvoir, je t'ai cherché, Seigneur. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. J'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. De peur que par lassitude, je ne veuille plus te chercher. Mais fais que toujours, je cherche ardemment ta face. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons. Jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Amen.
Nous lisons dans Exode, au chapitre 3, les versets 9 à 12. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir maintenant donc. Va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répond, je suis avec toi et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, les versets 10 à 14. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Amen.
Il y a bien longtemps, les changements se faisaient presque imperceptiblement, sur la longue durée. Il y a longtemps, bien longtemps, le fils reprenait la ferme du père. Puis, à son tour, il transmettait à son propre fils. L'originalité de chacun n'était guère de mise. On venait occuper une place qui semblait à peu près immuable. Bien sûr, chaque génération apportait quelque chose. On ajoutait une aile de bâtiment ici, on améliorait les techniques là, à la faveur d'un mariage qui était d'ailleurs étroitement codifié et souvent prévisible. On agrandissait les terres. Le plus souvent, les changements sociaux étaient lents. Il fallait plusieurs générations pour les percevoir. Puis est venu le temps où il s'est agi de réussir sa vie. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Réussir sa vie, c'est-à-dire principalement choisir soi-même son métier, mener sa carrière, choisir soi-même son conjoint et bâtir sa propre famille, des choix à faire idéalement une seule fois dans l'existence. Ce modèle est apparu au XIXe siècle, fin XIXe siècle. C'est celui dans lequel nous avons été élevés. Dans ce modèle, le changement coïncide avec le renouvellement des générations. À chacun, à chaque génération, de choisir son chemin et de le parcourir. On est passé de la vie, état, quelque chose d'immuable, à un modèle de vie trajectoire, projet à construire. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une autre perspective. Il faut se préparer à changer plusieurs fois de métier au cours de sa vie. Il est de plus en plus probable que le couple et la famille se recomposeront. Et si ce n'est pas le cas pour soi, on le constate au moins dans l'entourage. Et puis, on déménage beaucoup plus fréquemment. Les appartenances politiques, religieuses évoluent rapidement. Juste une parenthèse, c'est très étonnant de voir comment en France, ce qu'on appelait la ceinture rouge est devenue la ceinture noire. Comment on change de bord politique. Les changements qui se faisaient autrefois sur plusieurs générations, puis qui se sont faits au rythme des générations, se font maintenant à l'intérieur de chaque génération. C'est comme si le temps s'était emballé. Il a considérablement accéléré. Pas seulement à cause de la technique, comme dans les transports ou la communication, c'est nous-mêmes qui accélérons. Par exemple, nous parlons de plus en plus vite. On a pu le mesurer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir de vieilles émissions ou de vieux films. La manière de parler est beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. La preuve, c'est que moi, je parle trop vite même. Nous faisons de plus en plus de choses à la fois, et non plus successivement. Depuis travailler à domicile, jusqu'à téléphoner au volant, passer l'aspirateur pendant que la machine à laver tourne, il est devenu rare de fixer un rendez-vous longtemps à l'avance qui ne soit pas remis en cause ou qui ne doive pas être confirmé. Nous avons le sentiment d'avoir de moins en moins de temps pour les choses importantes. Et savez-vous que chaque jour, nous dormons en moyenne une demi-heure de moins qu'il y a 40 ans, bien que cette nuit on a pu gagner une heure. Mais nous dormons une demi-heure de moins qu'il y a 40 ans et 2 heures de moins qu'il y a un siècle. Donc il ne faut pas cette année que nous soyons fatigués. Sans qu'on y prenne garde, c'est comme si le temps s'était vraiment accéléré, s'était emballé. Et cette fatigue personnelle et surtout sociale est tout sauf anecdotique. Elle est le signe d'un grand désarroi. Courir plus vite quand on connaît le but à atteindre passe encore. L'effort a du sens. Mais aujourd'hui, vers quoi courons-nous ensemble? Puis l'effondrement des utopies politiques à la fin du XXe siècle, nous avons le sentiment d'être sans horizon. Les difficultés économiques, sociales nous laissent penser que l'avenir de nos enfants sera moins bon que le nôtre. Et cette période que nous traversons avec ce Covid-19 nous met dans l'incertitude la plus totale. Nous avons le sentiment de courir toujours plus vite, individuellement, collectivement, sans savoir vers quoi et même en faisant du surplace. C'est comme s'il fallait déployer de plus en plus d'efforts simplement pour ne pas être dépassé. Faire preuve d'énergie considérable pour gravir des pentes qui s'éboulent. Comme l'écureuil, vous savez, l'écureuil dans sa roue hein, qui tourne. Il est toujours sur place, n'avance pas. Il est d'une sorte d'agitation figée, d'immobilité frénétique. Au désert, le peuple d'Israël a sans doute connu une expérience de même ordre. Certes, il courait moins vite que nous. Hein. Il avançait au rythme lent des pas des familles et des troupeaux. Mais il a tourné en rond pendant 40 ans. Plus il marchait, moins il en voyait le bout. Et pendant 40 ans, ce ne fut plus comme au premier temps de la marche, une trajectoire tendue vers la terre promise. C'était devenu une sorte de piétinement nostalgique, toujours recommencé. Le temps fuyant était devenu sans but, comme une sorte de cercle infernal. Alors peut-être est-ce la tentation majeure de toute période d'isolement, d'épreuve, de persécution, de tout désert. C'est le tourbillon de la mélancolie et la spirale du désespoir. Et sans doute aujourd'hui, alors même que nous, dans notre région du monde, nous ne sommes pas dans un temps de persécution, sans doute vivons-nous, à cause de cette accélération insensée, sans but, une sorte de temps qui s'effondre sur lui-même, où tout paraît vain, où demeure finalement, vous savez, cette expression qu'on dit, à quoi bon tout ça? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tous ces efforts? À quoi ça sert toute cette patience? À quoi ça sert tout cet amour? À quoi bon? Quand le temps ne va plus nulle part, c'est l'enfer. Que s'est-il passé pour qu'Israël tourne en rond pendant 40 ans au désert? Tout simplement, Israël a oublié qu'il allait bien quelque part. Où donc? En terre promise, bien sûr. Mais la terre promise, ce n'est qu'un pays, si je puis dire, ce n'est qu'un objectif. Et cet objectif représentait autre chose, il signifiait autre chose, beaucoup plus essentiel. Ce vers quoi le peuple d'Israël marchait vraiment, ce n'était pas seulement une terre, c'était un rendez-vous. Le jour où le Seigneur s'était fait connaître à Moïse, il avait donné ce rendez-vous. Et ce avec quoi Israël avait vraiment rendez-vous, c'était Dieu lui-même. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est ce que a lu Moïse. « Qui suis-je, dit Moïse au buisson ardent, qui suis-je pour aller auprès de Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? Je serai avec toi de la marche. » Et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voilà le vrai sens de la marche d'Israël. Sortie d'Égypte et en route vers la terre promise. Rencontrer, servir Dieu. Le sens de sa marche, c'est le rendez-vous avec Dieu. C'est ce rendez-vous qui donne à Israël sa raison d'être. Car même après le désert, même installé en terre promise, le peuple d'Israël devra continuer à marcher vers Dieu. Et les prophètes, dans tout l'Ancien Testament, les prophètes le lui rappelleront à temps et à contre-temps. Ils seront mon peuple, dit Dieu, selon Jérémie, et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Les psaumes chanteront cette marche vers Dieu, notamment ce qu'on appelle les psaumes des montées. Les psaumes célébreront la marche vers le rendez-vous que Dieu donne à son peuple. Ce rendez-vous avec Dieu vers lequel le peuple est appelé à marcher, ce n'est pas seulement un rendez-vous lointain, ce n'est pas seulement un rendez-vous ultime, au dernier jour, c'est aussi un rendez-vous de chaque jour. C'est pourquoi les livres bibliques qui racontent la marche au désert insistent sur le rendez-vous quotidien que Dieu donne à son peuple. Chaque jour, Dieu donne rendez-vous à Moïse et à Aaron, à la tente de la rencontre. Chaque matin, Dieu donne rendez-vous à son peuple en lui donnant la manne qu'il faut quotidiennement ramasser, ne pas stocker. Israël est en quelque sorte le peuple du rendez-vous. Le peuple du rendez-vous avec Dieu, du grand rendez-vous à l'échelle de l'histoire, comme des petits rendez-vous à l'échelle du quotidien. C'est cela qui le constitue. Avant, c'était des clans familiaux. C'était les clans d'Abraham, les clans d'Isaac, de Jacob, c'était des tribus. Mais dès lors que Dieu lui donne rendez-vous, alors Israël est constitué en tant que peuple. Oui, le peuple d'Israël a rendez-vous avec Dieu et lorsqu'il l'oublie, c'est son malheur. Alors le désert devient pour Israël non plus l'occasion d'un tête-à-tête avec son Dieu, le désert devient un enfer de désespoir. Or, voici que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous connaissez cette citation, vous l'avez déjà peut-être en tête. Vous savez que le début de l'évangile de Matthieu reprend cette phrase du prophète Ésaïe. Le Nouveau Testament s'inscrit dans cette perspective d'un peuple qui a rendez-vous avec Dieu. Mais le Nouveau Testament renverse les choses sur deux points essentiels. D'abord, ce rendez-vous n'est plus seulement celui de Dieu avec un peuple, c'est celui de Dieu avec tous les peuples, avec tous les hommes, avec toutes les femmes, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues ont rendez-vous avec le Dieu vivant. Et chaque être humain aussi. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, dit Jésus. Chaque être humain a rendez-vous avec Dieu, qu'il soit pur, savant, docteur de la loi, ou qu'il soit impur, obscur, mécréant. Et ce sont même les boiteux, les estropiés, les aveugles, les collecteurs d'impôts, les prostituées méprisées, les petits-enfants qui ne comptaient pour rien, qui ont la première place dans ce rendez-vous. Pourquoi ? C'est le deuxième renversement essentiel dont témoigne le Nouveau Testament. Ce n'est plus un peuple qui doit aller vers Dieu pour ce rendez-vous, ni même tous les peuples, ni même tous les humains. C'est Dieu lui-même qui vient. C'est lui qui s'avance et qui vient au rendez-vous avec les humains. En Jésus de Nazareth, le Christ, Dieu a renversé la logique du rendez-vous. Ce n'est plus un peuple qui doit traverser un interminable désert pour aller vers Dieu. Ce ne sont pas même tous les peuples, chaque être humain qui doivent traverser des déserts de l'histoire ou de l'existence. C'est Dieu qui vient et il vient en personne à la rencontre des humains, à la rencontre de chacun. Au commencement était la parole. Elle existait déjà, écrit l'évangéliste Jean, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est devenue un homme, elle a habité parmi nous. En Jésus-Christ, Dieu est venu pour les humains. Il s'est approché, il est venu dans l'histoire au ras du sol. Chaque jour, Jésus venait à la rencontre de celles et ceux qui étaient sur son chemin. Il les écoutait, il leur parlait, il les touchait. Il les appelait par leur nom et l'aujourd'hui de chacun de ceux qu'il rencontrait devenait l'aujourd'hui de Dieu. Je vous disais, en commençant, quand le temps ne va nulle part, c'est l'enfer. Quand le peuple d'Israël avait le sentiment de tourner sans fin dans le désert et qu'il s'épuisait, il vivait le désespoir. Et son désespoir venait de ce qu'il oubliait ceci. Il avait rendez-vous avec Dieu. Et voici que Jésus, le Christ, est venu renverser cette perspective. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces rendez-vous de Dieu ? Pourquoi parler aujourd'hui et ici de rendez-vous ? Parce que c'est ce que nous vivons. Ce matin, nous avions rendez-vous, c'est pour cela que nous sommes venus ici. Ce matin, nous avions rendez-vous et ce matin spécifiquement, nous nous rappelons que ce rendez-vous a lieu pour notre Église depuis 345 ans. C'est à peu près la date de naissance de notre Église française. Rendez-vous avec qui ? Avec quoi ? Les uns avec les autres, bien sûr. Rendez-vous avec le souvenir des pères dans la foi, sans doute. Et nous nous rappelons d'ailleurs qu'eux-mêmes se donnaient rendez-vous dans des assemblées clandestines, cachées, dont ils avaient besoin pour se rappeler et se redire que dans leur désert à eux, Dieu leur donnait rendez-vous. Rendez-vous avec quoi avons-nous aujourd'hui ? Avec la Bible. Oui, pour y relire les récits des rendez-vous d'autrefois. Mais bien plus, en ouvrant les Écritures, nous découvrons ou nous redécouvrons ceci. Aujourd'hui, Dieu a rendez-vous avec les êtres humains. Demain, Dieu a rendez-vous avec les êtres humains. Il a rendez-vous avec nous et il a rendez-vous avec toi qui m'écoutes. Dieu a donné rendez-vous à son peuple. Dieu s'est donné rendez-vous avec les humains. Celui qui atteste ces choses dit « Je viens bientôt ». Le Christ vient le Christ est en quelque sorte le rendez-vous vivant, la rencontre personnifiée de Dieu. Il est vivant pour nous et il a rendez-vous avec nous. Il est vivant pour toi et il a rendez-vous avec toi. L'histoire du peuple d'Israël sorti d'Égypte peut rappeler l'histoire de notre Église française. Ces huguenots qui ont traversé des déserts, qui ont fui la persécution, qui se sont arrêtés ici à Saint-Gall pour certains d'entre eux, c'était leur pays de Canaan. Mais dans ce pays de Canaan, il ne s'agissait pas d'un bien matériel, d'un bien vivre. Il s'agissait pour eux de vivre pleinement leur foi. Témoigner que ce Dieu vivant avait quelque chose à dire au peuple de ce monde. La création de notre Église nous rappelle toujours que nous devons être cette petite lampe dans le monde dans lequel nous vivons. Cette lumière qui éclaire lorsque le désespoir envahit. En ce dimanche de la Réformation, c'est ce que nous avons encore à témoigner et à dire. Alors, quand c'est que Jésus me parle ou te parle, je ne sais pas. Comment ? Je ne sais pas non plus. Mais depuis qu'il est venu en chair et en os sur les chemins de Palestine, à la rencontre de chaque être humain, il ne se lasse pas de nous rejoindre là où nous sommes. C'est pourquoi je te dis, il a rendez-vous avec toi. Ce peuple qui a traversé le désert découvre ce rendez-vous. Aujourd'hui, demain, un autre jour, ce sera une rencontre singulière. Alors, ouvre tes oreilles et écoute. Écoute les chuchotements de la tendresse, les cris du monde et le silence des bâillonnés. Écoute et tends l'oreille vers le murmure de la parole de Dieu. Ouvre tes yeux et regarde. Regarde la beauté du monde. Regarde l'homme et les femmes que tu croises. Regarde le visage de ta voisine, de ton voisin. C'est le visage d'une sœur, d'un frère. Regarde les pas du Seigneur qui nous rejoint sur nos chemins. Ouvre ton intelligence et ton esprit. Lis les Écritures et prie. Et puisque le Seigneur vient vers toi, demande-lui de se faire connaître. Et quand le temps tourne en rond, lentement ou comme un tourbillon, quand il se réveille dans l'inquiétude du lendemain, rappelle-toi que Dieu a rendez-vous avec toi. Lorsque la dépression te traverse ou lorsque cet « à quoi bon » t'envahit, rappelle-toi. Le Seigneur vient pour te libérer. Rappelle-toi la parole du psalmiste qui dit, pour que cette parole prenne la couleur de ta voix, « J'ai mis ma confiance en toi, dit le Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu et mes temps sont dans ta main. » Les temps sont dans sa main, les temps sont dans sa main car le Seigneur est vivant et il vient vers toi. Aujourd'hui, nous fêtons le 1e anniversaire de la Réformation, ce rendez-vous au désert, aujourd'hui où nous avons à nouveau ensemble ouvert les Écritures et cette parole toute simple que je veux vous dire et cette bonne nouvelle que je veux vous donner, partager avec vous. Oui, ma sœur, mon frère, en Christ, le Dieu vivant a rendez-vous avec toi. Il suffit de voir comment nous avons, à travers le temps, continué à témoigner de cette parole et à vivre de cette parole. Alors, quand vous repartirez tout à l'heure, vous marquerez sur vos agendas que vous avez rendez-vous avec Dieu. Et qu'il vous attend. Amen. Dieu notre Père, nous te disons notre reconnaissance de ce que ton Fils est passé de la mort à la vie. Voici donc le pain de la vie que nous avons partagé, la coupe qui témoigne du salut. Père, fais surgir maintenant ta vie parmi nous. Envoie ton esprit sur ton Église. Que ce pain partagé soit pour nous le corps de ton Fils. Que ce fruit de la vigne soit pour nous le sang de ton Christ. Que cette communion nous appelle à dire en parole et en acte ce que Jésus, le Christ, est le Seigneur. Mon Dieu, regarde notre vie. Tu connais les richesses qui s'y trouvent déjà, mais tu sais aussi nos faiblesses. Aussi nous te le demandons, fais venir ton esprit vivant qui nous délivre de tout esclavage. Ainsi nous pourrons vivre pleinement ton amour au milieu de tous nos frères et sœurs. Notre Dieu, nous portons à ton attention les hommes et les femmes et les enfants de ce monde, en particulier ceux qui souffrent, que ce soit de la guerre, de la faim, de l'injustice. Nous te confions aussi les communautés chrétiennes, ainsi que ceux qui assument un ministère. Nous te confions les personnes que tu places sur le chemin de nos vies, que tu sois présent dans toutes ces rencontres. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous voulons te prier en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 396 et nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. 396. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. D'habitude, je raconte toujours une histoire en début de culte. Je me permets cette fois-ci de vous la raconter à la fin. Le caméléon, vous voyez ce que c'est qu'un caméléon ? Le caméléon est un grand professeur. Regardez-le. Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites comme lui. Ayez un objectif dans la vie et que rien ne vous en détourne. Le caméléon ne tourne pas la tête, mais c'est son œil qui le tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut dire, informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes seul sur la terre. Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord de la tolérance et puis du savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais rien n'a été construit dans la bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l'autre. Si nous existons, il faut admettre que l'autre existe. Si le caméléon avance, il lève un pied, il balance. Cela s'appelle de la prudence dans la marche. Pour se déplacer, il accroche sa queue ainsi que ses pieds, s'enfonce, il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudent. Alors, lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener, elle lui ramène. Sinon, il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain. Alors, j'ai envie de vous dire, sortez. Sortez, vous qui êtes les gens du peuple de Dieu. Maintenant, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu. Les pierres taillaient la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens du peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.